ça a déjà été dit, c'est que Roland tenait absolument à publier au Fleuve Noir. C'est à peu près normal puisqu'il est tombé dedans quand il était petit. Comme il le raconte dans une interview, il avait 10 ans, il était malade lorsqu'il avait demandé à ce qu'on lui ramène un bouquin, un truc avec des fusées. Et évidemment, donc, on lui a acheté un Fleuve Noir. Et c'était un Andrevon sous pseudonyme, Alphonse Brutsch, La guerre des Grulles, numéro 452. Et c'est là qu'il s'est dit, bon sang, il y a déjà 451 titres qu'il me reste à lire. Donc, c'est une affaire de passion, c'est vrai. La passion était là. D'abord, je crois que c'est le seul, à ma connaissance, auteur qui a lu toute la collection Anticipation. Il les a tous lus. Son substrat, sa base, c'est vraiment la littérature populaire, c'est le Fleuve Noir Anticipation. Et ce qui fait qu'il va pouvoir défendre des auteurs qui peut-être n'auraient pas été retenus par les autres, des auteurs que l'on dirait de second plan. Et il a toujours tenu à dire qu'en dehors des grands écrivains, il y en a d'autres secondaires qui ont le droit d'exister, qu'il ne faut pas oublier et qu'il a toujours tenu à rappeler. Hein. Les géants ne sont pas tout seuls. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il va parler de Louis Thirion, souvent, et qu'il va défendre pas mal d'auteurs. Il va commencer, donc, effectivement, avec un espionnage, simplement parce qu'il va l'écrire avec Alain Paris. Mais comment ça s'est fait? C'est aussi parce qu'il tenait à connaître tout le monde. On le sait qu'à 14 ans, il a débarqué un jour avec Éric Viel dans une convention et il tenait à interviewer tous les auteurs qui étaient présents, Michel Jury. Il allait aussi les voir chez eux, il partait en stop et il ne savait pas du tout où il allait dormir. Je crois que c'est Pierre Pelot qui m'a dit qu'une fois, il a entendu frapper au volet, il pleuvait, il faisait nuit et il arrivait pour l'interviewer. Il a eu des galères le temps d'arriver, donc on n'arrivait pas en pleine nuit chez les gens, mais bon, ça a pu faire autrement que d'arriver, d'être hébergé chez eux. Et Alain Paris, c'était à peu près la même chose. Comment ils ont sympathisé? Il avait écrit un bouquin en collaboration avec Jean-Pierre Fontana, Reich, la cité des hommes de fer, un Fleuve Noir, évidemment. Ça l'avait vraiment intéressé, d'autant plus qu'il avait déjà lu le Spinrad Rêve de fer, dont il avait parlé en disant que ça avait changé sa vision des choses sur pas mal de points. Et à ce moment-là, il lui avait écrit, ils ont sympathisé, et c'est comme ça que, de fil en aiguille, Alain Paris lui donnera l'occasion d'entrer au Fleuve Noir, lui qui jusqu'à présent n'avait écrit que des nouvelles dans des fanzines. Et je crois que la première fois que je l'ai vu, c'est la même année que Michel, en 82, mais je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui, j'ai découvert un petit peu tout le monde, un peu comme toi. Je me souviens qu'on avait discuté avec Nolan à la terrasse d'un café un matin, et de Roland, je me souviens que d'une seule chose, c'est qu'à une remise des prix Rosny Aîné, je pense, ou un truc comme ça, il était venu très rapidement dire quelque chose au micro et il était descendu de l'estrade en sautant. Le genre de choses qu'il faisait assez fréquemment lorsqu'il venait glisser une petite vanne et qu'il repartait à moitié courbé, hein, comme de la même manière lors des repas, il s'approche pour dire quelque chose à l'un ou à l'autre, il vient toujours accroupi, pour ne pas déranger. On le voit toujours accroupi en train de dire quelque chose à quelqu'un. Voilà, donc, il a pu commencer au Fleuve Noir, et là, il était chez lui. Je crois que, je ne sais pas si à l'époque, il y avait encore Patrick Siri, ou il n'y avait déjà que Suzanne Beaufils, 87, plus que Suzanne Beaufils, et que l'alchimie se fera réellement avec Nicole Hibert. Nicole Hibert hébergeant les jeunes auteurs et les faisant retravailler, pour certains, au moins ceux qui habitaient la région parisienne, en disant, bon, ben voilà, t'as un potentiel, mais maintenant, il va falloir apprendre à écrire vraiment. Je sais que tu en as bénéficié, d'autres aussi. Et en fouillant, là, justement, je suis retombé sur ça. C'est un truc que Nicole Hibert avait fait, un calendrier de l'année 90 qui était offert donc pour l'achat de trois Fleuves Noirs. Et il y avait marqué 2001, évidemment, parce que ça faisait très science-fiction, simplement parce que le calendrier de 90 marchait aussi pour l'année 2001. Et donc, chaque mois, il y a un auteur présenté. Alors, en dehors des vieux routiers, Arnaud, Andrevon, Pelot, de certains qui marchent, qui sont juste un petit peu avant nous, Brousselot, il y avait toute la nouvelle génération, hein, qui est la nôtre. Il y a Jean-Marc, il y a Michel, Hein, oui, oui, je te ferai voir. Oui. Non, encore toi, ça passe, mais alors nous, on a vraiment l'air de gamins, je ne vous dis pas. Et puis, il y a Roland qui essaie de poser avec... qui fait un peu... polar, voilà. Et donc, c'est lui qui avait rédigé sa présentation. Je vais vous la lire. Né en 1960 à Babelwed, j'ai découvert très tôt la SF et décidé, ô inconscience, de devenir écrivain professionnel. À l'issue d'un certain nombre d'années, de petits métiers, conformément à la tradition, j'ai fini par publier mon premier roman en 87. Mais il n'y a pas que l'écriture dans la vie. Chanteur, parolier du groupe rock Brain Damage et collectionneur d'artefacts psychédéliques, je vis en banlieue avec mes deux minous félins pour l'autre, qui sont tous deux d'inépuisables sources d'inspiration. Voilà. Le rappel aussi, ce qui est important, donc c'est le rock et c'est aussi les animaux, les chats. On le verra de plus en plus dans les bouquins qu'il publie au Fleuve Noir, l'apparition d'animaux, le fuinin, le maèdre, bon ça va, vous les connaissez. Donc moi, petit à petit, je me suis rendu compte aussi que tout ce qu'il a écrit n'était qu'une préparation de l'œuvre à venir. Il essayait de tout inscrire, comme c'était un fantasme assez répandu à l'époque, une histoire de la science-fiction. Et je crois que dès les départs, il avait posé ses jalons d'une histoire de la SF. Et cette histoire-là, il l'a remaniée petit à petit au fil des bouquins. Pardon ? Histoire du futur, excuse-moi. Une histoire du futur, voilà. Il voulait une histoire du futur et il l'a remaniée petit à petit. Donc je retiens, moi, cet amour inconditionnel pour la SF et pour le Fleuve Noir, où il a toujours voulu rendre hommage aux anciens, où il a toujours voulu traîner aussi dans les locaux de la maison d'édition. S'il habitait aussi la banlieue, à un moment, je lui disais, bon, moi, je suis dans le sud. Il me disait, mais moi, je ne peux pas habiter trop loin de Paris. Il faut que je puisse pouvoir revenir à Paris. Il faut que je puisse aller voir ce qui se passe au fleuve. Voilà. Ça, il y tenait. Il a eu quand même le plaisir, justement, de finir avec le dernier numéro de la collection. Alors ça, c'était un bonheur ineffable pour lui. D'autant plus qu'à l'époque, on lui avait dit, vous pouvez choisir, la collection va s'arrêter, vous pouvez choisir le dernier numéro. OK. Il t'a grillé, voilà. Il était content parce que il avait peur. Il était surtout content d'avoir grillé Serge. Hein. Serge avait choisi le 2000 et il dit, mais pourquoi le 2000? Ce qui est important, c'est le 2001. Voilà. Donc, il tenait à ça. Comme il a été aussi content de pouvoir créer une collection au sein du Fleuve Noir, même si elle n'est pas allée très loin, la première question qu'il posait, c'était redécouvrir aussi des anciens. Et c'est là où il avait pensé à Georges Arnaud, sa première trilogie, avant la Compagnie des Glaces. Le deuxième point que je retiens, c'est l'empathie, le populaire, l'humour. L'empathie, bon ben, on voit qu'il l'a toujours avec tout le monde, il a toujours voulu rencontrer tout le monde, discuter avec les uns et les autres, discuter avec ceux qui ne sont pas forcément de nos chapelles. Moi, j'ai constaté que lorsqu'on se retrouve, et puis c'est bien normal, on discute avec ceux avec qui on a le plus d'affinités, ceux avec qui on a l'habitude de travailler ou de faire des choses ensemble. Je crois que c'est le seul électron libre qui circule d'une chapelle à l'autre, qui va voir peut-être le petit groupe de fantasy, qui va être avec ceux qui publiaient à l'époque En présence du futur, par exemple, par rapport aux auteurs plus populaires du Fleuve Noir. C'était celui qui effectuait le lien avec nous tous. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît vraiment important, hein, cette façon de fonctionner.
Joseph. On peut vraiment faire un parallèle avec l'autre phrase. J'allais y arriver. Communication, oui. C'est pas par hasard qu'elle écrit HPR. Roland, c'était une espèce de Lovecraft français de la SF moderne. Cette manière de communiquer avec tout le monde, on s'apercevait que tout le monde le connaissait. On ne savait pas qu'il avait discuté avec un tel. Il y avait quelque chose de ça. Je crois que c'est pas par hasard qu'elle écrit ce texte.
Ben, je voulais justement en venir à Lovecraft. Mais cette empathie, justement, qu'il avait, lui permettait de s'identifier aussi aux autres. Et je voulais dire que lorsqu'il écrit HPL de Lovecraft, il s'identifie complètement à Lovecraft. Et cette uchronie qu'il écrit, où petit à petit, il enlève de Lovecraft, disons, les côtés déplaisants du personnage, pour petit à petit lui donner une autre courbe, une autre trajectoire, et en faire un Lovecraft qui est tout à fait wagnérien. Là, tout d'un coup, j'ai l'impression que Lovecraft, c'est Roland Wagner. Et ça, je l'ai retrouvé un petit peu partout. Au moment des obsèques, j'avais lu deux passages de son œuvre hein, qui m'avaient été fournis par Estelle Blanquet et l'autre que j'avais choisi dans Rêve de gloire, où il parle de Camus. Alors, mon Rêve de gloire, je ne vais pas en parler parce que ça sera Mireille, c'est plus le fleuve noir, mais il me disait qu'il avait tout lu de Camus, je le voyais s'identifier à Camus, et lisant ce passage-là, j'ai vu à quel point Camus était devenu Roland Wagner, et il s'y identifiait. Et je vous lis ce passage. « Vous voulez parler d'une Algérie qui serait restée entièrement française ? Voilà, avec tous les problèmes qui vont avec. Il ne se rengorgeait pas, mais il n'avait pas non plus une lueur de modestie fondamentale au fond de l'œil à ce moment-là. Bah, il avait bien droit à un chouïa d'autosatisfaction, non ? Je ne vais pas tout vous raconter, n'est-ce pas ? Et oui, alors, cette autosatisfaction, Roland, il l'avait, bien évidemment. Il était, comme on l'a déjà dit, toujours content et fier de tout ce qu'il a pu faire. Il a toujours essayé aussi de le montrer, de faire savoir qu'il était dans un groupe de rock, les ventes aux enchères avec ces 45 tours, on en a vu assez souvent. Il s'était amusé aussi à fabriquer des petits marque-pages avec la série des futurs mystères de Paris. C'est lui-même qui les faisait, qui les distribuait. Donc oui, cette autosatisfaction, quand je la vois chez Camus, je me dis, bon sang, mais ça c'est Roland. Et partir toujours du vécu, lorsqu'il essaye de comprendre le monde à travers la science-fiction, c'est ce qu'il avait dit, il parle de son vécu, donc on voit toujours arriver des chats dans ses histoires, des animaux. Il parle aussi de Clamart, il parle du Plessis Robinson, où il a vécu également. Tout ceci, ça se retrouve finalement dans ses livres. Et alors, ce troisième point, c'est, qui va avec les mêmes, peut-être l'empathie, c'est aussi la justice, rendre justice à tous. Ne pas oublier donc les auteurs de second plan, c'est lui qui va chaque fois rappeler qu'ils existaient, c'est lui qui va écrire des préfaces pour les défendre les uns et les autres. Bon, il a fait la préface pour Joël Vintrevert, la défense et illustration de Miss Univers, mais c'est aussi lui qui a fait mon recueil de nouvelles au Bélial. Je n'avais rien demandé. Il avait simplement décidé avec Olivier Girard qu'il ferait un jour un recueil dont il écrirait la préface. Moi, à la limite, j'étais même pas au courant, sauf après, lorsqu'il m'a dit « j'ai envie de lire quelques-uns de tes textes que je ne connais pas pour pouvoir faire mon choix ». Voilà. Donc ça, c'était des choses qu'il faisait pour que la famille de la science-fiction soit là. Et Joël l'a répété tout à l'heure, l'a rappelé au sujet de la loi Hadopi. Qu'il a défendu, qu'il a porté sur ses épaules et qui commençait quand même par « peuple de la science-fiction ». Cette idée de peuple me paraît importante hein, et intéressante chez lui. Et c'est donc son engagement, aussi bien donc à travers le temps qu'il donnait, les préfaces, les anthologies, ce désir de justice et de partage qui me paraît important et que j'ai retrouvé aussi tout au long de sa carrière, puis essentiellement dans ses bouquins du fleuve.